Je continue mon parcours de l'évangile de Marc. La dernière fois, on s'était arrêté lorsque Jésus avait délivré un démoniaque de ses démons. Et ce démoniaque délivré, qui n'était plus démoniaque, eh bien, il est allé témoigner dans toute la Décapole de ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà, pour vous situer où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on en est arrivé. Et là, on en est arrivé à Marc chapitre 5. À partir du verset 21, et je lirai jusqu'au verset 43, du verset 21 au verset 43. Je vais prier avant. Seigneur, merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Et Seigneur, je m'abandonne entièrement pour ce message, Seigneur. Et merci d'ouvrir nos cœurs et vraiment à ta parole et de nous laissons tous aussi à l'extérieur et à tes pieds, au nom de Jésus, toi qui es présent. Amen. Jésus 5, 21. Marc 5, 21. Chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. D'après ce texte, on peut en conclure, on peut résumer ce texte par cette phrase clé, que Jésus répond à la prière, aussi bien à la prière en action, sans parole, à la foi. Jésus répond à la foi en action et en parole, en prière. Jésus répond à la foi en action, pas forcément en parole, et aussi en parole, en prière. Alors, comment se caractérise la foi que le Seigneur attend? Eh bien, on verra ça en 3 parties. Premièrement, nous verrons la prière de la foi que nous inspire Jaïrus. Deuxièmement, nous verrons la foi personnelle. Une foi personnelle, la foi personnelle, elle sauve. Et troisièmement, on verra que la foi personnelle, elle va plus loin, elle persévère. Elle persévère. Alors ici, on a deux récits dont l'un est inclus dans l'autre. Et ces deux récits, il y a des points communs dans ces deux récits, si on rapproche les deux épisodes. Le premier point commun, c'est que deux personnes vont vers Jésus. Dans le premier récit, un père va voir Jésus, pas pour lui, mais parce que sa fille est malade. Elle est même mourante. Il va voir Jésus pour sa fille. Et dans le second, une femme va voir Jésus pour elle, pour être elle-même guérie. Il y a un deuxième point commun qu'on a relevé, et si c'est là dans la parole, c'est qu'il y a une raison, et je vais y revenir, c'est que l'enfant a 12 ans, et la femme est malade depuis 12 ans, une même période, 12 ans. Et un troisième point commun à ces deux récits, c'est que Jésus va répondre aux attentes de Jaïrus et aux attentes de cette femme, bien au-delà de leurs espérances, bien au-delà. Et on va voir comment. Donc tout commence par le chef de la synagogue, donc quelqu'un de réputé, qui s'appelle Jaïrus. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier de guérir sa fille qui est mourante. Il va supplier de guérir sa fille par une... Et le texte nous dit que c'est une prière. Il fait une prière à Jésus qu'il a devant lui. Cette prière, on va y revenir, verset 23. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Quatre points. « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est une prière, et je vous invite à creuser, à analyser cette prière, qui est une prière de la foi, une prière de la foi dont on peut s'inspirer, qu'on soit parent ou pas. Est-ce que Jésus va répondre à cette prière, qui est quand même une prière précise? Est-ce qu'il va y répondre partiellement? Est-ce qu'il va y répondre totalement? Déjà, eh bien, arrêtons-nous sur Jaïrus. Jaïrus, c'est le chef de la synagogue. Donc, la synagogue, ce sont les chefs religieux qui n'avaient pas Jésus, qui n'aimaient pas Jésus. Jaïrus ne se laisse pas arrêter par ça. C'est un père qui est dans la détresse. Il a beau être chef de la synagogue, et qu'est-ce qu'il fait? Il n'hésite pas à s'humilier aux pieds de Jésus, devant les autres qui vont assister à la scène, et en le priant à haute voix. Et devant donc très probablement ses autres collègues qui, eux, ne croyaient pas en Jésus, les chefs religieux de la synagogue, les pharisiens, qui d'ordinaire sont hostiles à Jésus. Et puis, il va user d'audace. Il y a encore un point commun entre Jaïrus et cette femme, la femme qui vient après. Tous les deux usent d'audace. Et ça, c'est la foi. Il va user d'audace dans sa prière, et il va même dire à Jésus exactement ce qu'il doit faire. Une prière très précise. Comment procéder? Alors, il est audacieux, Jaïrus, et la vraie foi se caractérise par l'audace. On ose parfois. Et là, effectivement, c'est le cœur de ce père pour sa fille qui va le pousser à faire cela. Une prière faite, une prière remplie d'audace, et la vraie foi, elle est à la fois audacieuse, mais elle est aussi humble. Jaïrus s'est humilié devant Jésus, à la vue de tous. La vraie foi, elle est audacieuse et elle est humble. Et Jésus, eh bien, l'évangile de Marc, c'est l'évangile du serviteur. Jésus, en vrai serviteur, il va se rendre disponible. Il ne va pas lui donner un rendez-vous sur son agenda. Il va y aller sur le champ. Il va y aller sur le champ. Il a compris la détresse de ce père. Et Jésus, il a un plan pour cet homme, comme il a un plan pour chacun d'entre nous. Ce père, à la foi, il a une foi bien réelle, mais qui est balbutiante, et Jésus va faire grandir la foi de ce père. On va voir comment. Et donc les voilà partis. Jésus suit le papa Jaïrus pour aller guérir sa fille, accédant à sa requête. Mais voilà que un imprévu surgit, les voilà qui sont retardés, ils vont être retardés doublement, d'une part par la foule qui se presse, et parfois la foule c'est un véritable obstacle, et aussi il y a cette femme, qui est malade, qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui va chercher à toucher le vêtement de Jésus, juste toucher le vêtement de Jésus, pour être guéri. Ce qui montre déjà une foi, même si ce n'est pas une foi en parole. Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place de Jaïrus? Et déjà, dans la vie normale, est-ce que vous avez déjà été contrarié par quelqu'un qui passe devant vous, à la queue au supermarché? Est-ce que vous n'êtes pas en colère parfois de vous faire doubler? Mais ici, c'est une question beaucoup plus grave, c'est une question de vie ou de mort. Une fillette se meurt, il n'y a pas une minute à perdre. Alors Jésus et Jaïrus essayent de se frayer un passage dans la foule. Et là, voilà que quelqu'un vient les retarder. Mise à l'épreuve, voilà de quoi mettre à l'épreuve Jaïrus. Jaïrus qui a une foi naissante. Mise à l'épreuve de sa foi, est-ce qu'il va rester avec Jésus malgré ce contretemps, ou bien est-ce qu'il va se dépêcher d'aller... Jésus est retardé, donc vite, il va aller voir quelqu'un d'autre, il va chercher à voir un guérisseur. Il va se dépêcher de chercher ailleurs un guérisseur, renommé peut-être. Et vous, est-ce que vous seriez parti, si vous avez été dans la détresse, en voyant que vous n'avez pas de réponse à vos prières pour quelqu'un qui vous est cher, est-ce que vous seriez parti voir ailleurs ? Hors de l'église, en vous disant que Jésus ne s'occupe pas de vous, ça fait trop longtemps que vous attendez, alors que vous avez un besoin crucial auquel vous attachez énormément d'importance. Où est-ce que vous auriez cru et attendu patiemment sa réponse? Jaïrus, il va rester patiemment avec Jésus. Il va rester patiemment auprès de Jésus malgré ce contretemps. Il ne va pas le lâcher, ce qui démontre sa foi. Et auriez-vous réagi comme Jésus? Jésus qui allait voir cette fillette, et quelqu'un au milieu de la foule vient s'interposer. Jésus peut pas être partout à la fois. Il pouvait pas être partout à la fois lorsqu'il était en chair. Aujourd'hui, il le peut bien sûr, puisqu'il est partout. Il est le Fils de Dieu. Il est omniprésent. Il est ressuscité. Mais est-ce que vous auriez réagi comme Jésus si vous avez été dérangé dans votre emploi du temps, dans votre journée, dans votre programme? Par exemple, votre fils ou votre fille vient dans votre bureau pour jouer ou pour exprimer un besoin. Et vous êtes en plein travail, vous avez une échéance, vous avez un document à fournir, et vous êtes sollicité de toutes parts, vous avez des tas d'emails auxquels répondre, et votre fils ou votre fille ou votre conjoint vient vous solliciter parce qu'elle a un besoin. Est-ce que vous auriez accepté de vous rendre disponible et d'être interrompu dans votre travail urgent? Parfois, il y a des contretemps qu'on n'a pas demandé. Et bien sûr qu'on n'a pas parfois le temps de mesurer l'importance de ce contretemps. Mais en tout cas, Jésus, lui, va se rendre disponible aussi pour cette femme. Tout limité qu'il est, il ne pouvait être qu'un endroit à la fois, il va se rendre disponible pour cette femme, comme il s'est rendu disponible pour Jaïrus. Alors, dressons le portrait de cette femme. Le texte nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et donc, elle cherche à s'approcher de lui. Et vous avez remarqué, autant Jaïrus s'est jeté au pied de Jésus aux yeux de tous, elle va le chercher à le faire discrètement, par derrière, et non pas de face comme Jaïrus. Elle ne veut pas se faire remarquer, parce que c'est une exclue de la société à cause de sa perte de sang qui est permanente. En effet, d'après Lévitique 15-25, la loi mosaïque, disait que la femme ayant un cycle menstruel, ayant son cycle menstruel, était impure, le temps de son indisposition. Là, cette femme, elle a une perte de sang qui est permanente. Et elle se sent impure de façon permanente. Elle est exclue de la société. Et si vous avez vu le film The Chosen, ça marque bien, vous avez ce récit-là qui est mis en scène, et ça marque bien comment on voit cette femme qui est la mise en scène, comment elle est rejetée par les religieux et elle vit discrètement, enfermée chez elle, n'osant pas sortir. Cette femme, elle ne se croyait peut-être pas assez digne pour se mettre en face de Jésus. Et vous avez remarqué, elle cherche juste à le toucher par derrière. Elle ne fait pas comme Jaïrus, elle ne lui parle pas. Et pour autant, elle a la foi. Une foi qui est en action, une foi qui est agissante. Elle veut juste se contenter de toucher le vêtement de Jésus. C'est une femme qui est déterminée. La foi, elle est déterminée. Et effectivement, elle va réussir, malgré la foule, à s'approcher suffisamment près de Jésus pour toucher son vêtement, ce qu'elle voulait. Elle a montré qu'elle avait la foi, même sans parole. Même sans parole. Une foi en action. Résultat, Vous vous souvenez, le mot qui revient dans l'évangile de Marc, c'est le mot aussitôt. Eh bien là, elle est guérie instantanément de sa maladie. Et elle le sait. Quand on est guéri, on le sait. Hein. On est bien, on se sent mieux que lorsqu'on a été malade. Elle le sait, elle l'a senti. Elle a eu ce qu'elle a voulu, cette femme. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Alors ça l'aurait bien arrangé, quoi, de s'éclipser discrètement. Après avoir obtenu ce qu'elle a voulu. Mais Jésus ne voit pas les choses comme ça. Il ne veut pas s'arrêter là. Est-ce que nous, parfois, on n'est pas un peu comme ça? On aspire à un mieux-être, on va vers Jésus pour qu'il réponde à notre besoin du moment. Ça peut être un besoin légitime, besoin d'être guéri d'une maladie, de se sentir mieux. Et parfois, eh bien, encore plus aujourd'hui, certains aspirent à un mieux-être et réduisent Jésus à un guérisseur, au lieu de le considérer comme le sauveur et le rédempteur. Alors on veut bien le don, on veut la bénédiction, mais certains ne veulent pas du donateur. Certains ne veulent pas celui qui bénit. Un guérisseur, c'est pourquoi les guérisseurs, ils ont tant de succès aujourd'hui, un guérisseur, il peut combler mes besoins du moment. Et les livres dans le rayon psychologie, dans les librairies chrétiennes, les livres de psychologie ont un grand succès aujourd'hui. Pour se sentir mieux, il y a même des livres qui parlent de suivre des régimes pour se sentir mieux. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais parfois la quête s'arrête juste à un bien-être. Est-ce que Jésus ne veut pas plus que notre bien-être? Jésus veut être notre rédempteur, le rédempteur. Son plan, eh bien, il va orienter ma vie. Plus que à l'instant présent, il veut orienter ma vie dans la durée. Un guérisseur va me servir mes besoins immédiats, mon moi. Mais un rédempteur, le rédempteur, m'appelle à me repentir et à me tourner vers lui pour le suivre de façon aimante et durable. Jésus n'est pas resté indifférent à la souffrance physique de cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a guérie. Parce que cette femme, elle a démontré une foi réelle, une foi certaine, même sans parole. Elle était déterminée. Alors aujourd'hui, on ne peut pas toucher Jésus, le vêtement de Jésus. Certains en ont fait des reliques, hein, parfois. Vous savez, je ne sais pas combien de couronnes d'épines on compte dans le monde. Mais on peut s'approcher de Jésus, même si on n'a pas les mots. Jésus n'est pas resté indifférent à la souffrance de cette femme, il l'a guérie, parce qu'elle avait une foi certaine. Mais Jésus avait en vue quelque chose de meilleur pour cette femme, de plus grand que sa guérison physique. C'était quoi qu'il avait en vue? C'était le salut de son âme. Et donc Jésus ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter à l'avoir guérie, il va aller plus loin avec elle. Et regardons comment il procède. Mon deuxième point, la foi personnelle qui sauve celle-là. La foi personnelle, elle sauve. La foi personnelle qui sauve? Alors Jésus regarde autour de lui après avoir demandé qui a touché ses vêtements. Et c'est une question qui tombe sous le sens. Jésus est pressé de toutes parts et les disciples lui font remarquer. Seigneur, la foule te presse. Jésus sait très bien qu'il l'a touché. Pourquoi il pose cette question? Eh bien, la femme qui aurait aimé rester discrète, il pose cette question pour pousser la femme à se faire connaître aux yeux de tous. N'oublions pas que tout autour, il y a une foule. Voilà la femme, cette fois, qui est au pied de Jésus, cette fois comme Jaïrus. Elle n'est plus derrière lui. Et donc, eh bien, se voyant découverte, comme si elle avait fait quelque chose de mal, alors que non, elle n'a rien fait de mal. Elle lui dit toute la vérité, nous dit le texte. Elle parle à Jésus. Elle ne peut plus se cacher, se voyant découverte. Elle parle à Jésus aux yeux de tout le peuple qui est autour, devant tout le peuple. Oui, parce que Jésus veut que la vraie foi, notre foi, ne passe pas inaperçue. Dans quel but? Eh bien, dans le but de le faire connaître, que les gens le connaissent et rendent gloire à Dieu. Et aussi dans le but de nous bénir, parce qu'on est béni quand on partage notre foi. quand on veut bien témoigner de sa foi. Pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? Parfois on reçoit, on est reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. Mais Dieu nous bénit pas pour on garde tout pour soi, mais pour être en bénédiction aux autres. Quand Dieu nous bénit, c'est pour être en bénédiction aux autres. Voilà pourquoi Dieu bénit son Église. Et la vraie foi en Jésus, eh bien, la vraie, elle passe par confesser Christ. Autrement dit, le déclarer publiquement. Ce que redit l'apôtre Jean en 1 Jean 4:15, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Et 2 Corinthiens 4:13, et comme nous avons, je vous lis 2 Corinthiens 4:13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Quand nous avons la foi, on ne peut pas le garder pour soi. Ça se traduit en parole. Alors cette femme, elle a fait une confession de foi, un peu forcée, par Jésus. Et bien que se passe-t-il suite à sa confession de foi? Et seulement à partir de là, que se passe-t-il? Vous avez remarqué, Jésus ne lui dit pas « ta foi t'a guéri », verset 34, mais il lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal ». Dans l'ordre, Jésus lui donne quoi? Il lui donne le salut, ta foi t'a sauvée. Il lui donne l'assurance du salut et la paix qui en découle. Et il lui donne, en dernier, la guérison. Cette femme a eu assez de foi pour recevoir tout ça. Le salut, la paix qui en découle, et la guérison. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend? Eh bien, quelqu'un s'est approché de Jésus. On ne s'approche pas de Jésus par la foi, sans qu'il nous bénisse en retour, qui que nous soyons. On ne s'approche pas de Jésus par la foi sans qu'il nous bénisse, et sans que soi-même on le sache. La femme a su immédiatement ce qui s'est passé en elle, verset 29. Elle a su ce qui s'est passé en elle, dans son corps. Deuxièmement, on ne s'approche pas de Jésus par la foi sans que lui-même le sache. Et le verset 30 rajoute « aussitôt ». Jésus sut aussitôt que cette femme s'était approchée de lui. Même si elle s'approchait de lui par derrière, il remarque quelqu'un qui va s'approcher de lui. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui va chercher Jésus dans une chapelle, peut-être une vieille chapelle délabrée, Dieu le voit. Et il se laissera trouver par celui qui le cherche, même si ce n'est pas au bon endroit. Même si c'est dans une vieille chapelle vide. Et puis, on ne s'approche pas de Jésus par la foi sans le déclarer publiquement, sans que les autres le sachent. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise pour témoigner de votre foi? Confessez publiquement le Christ. Peut-être que vous ne vous sentez pas l'âme d'un évangéliste. Peut-être que vous vous êtes senti, vous avez déjà été rejeté. Et vous vous êtes senti humilié. Vous avez bien essayé de parler de votre foi, mais vous vous êtes heurté à un mur. Vous n'avez pas été reçu correctement. Et vous avez été découragé, vous ne dites plus jamais ça. Même si parfois on n'a pas la parole facile, on ne connaît pas tous les versets par cœur. Parfois un verset suffit. Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire, c'est ce que nous, certains d'entre vous, ont fait ce matin. C'est donner notre témoignage. Ça, nous pouvons tous le faire. Donner notre témoignage de conversion. Notre témoignage personnel qui nous est propre. C'est pas le tien, c'est le mien. De ce que Jésus, témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Un témoignage, c'est la vérité. Personne ne devrait le contester. Qu'est-ce qu'a fait le démoniaque qui a été guéri par Jésus dans le texte précédent? Il est allé témoigner à toute la décapole. Il ne pouvait pas le garder pour lui. Il a témoigné de ce que Jésus a fait pour lui. Alors oui, Jésus a poussé la femme. Il a poussé la femme à donner son témoignage devant tous. Et vous vous rappelez, cette femme elle-même avait entendu parler de Jésus. Quelqu'un d'autre lui avait témoigné. C'est une chaîne de transmission. Et le Seigneur veut que cette chaîne de transmission se perpétue encore et encore. Une chaîne de transmission, il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui manque à la chaîne. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres nous ont témoigné et ont prié pour nous. Et vous, vous qui êtes parents, je pense que tous là, vous êtes parents. Moi, je ne suis pas adoptif, mais en tout cas, eh bien, est-ce que vos enfants connaissent, est-ce que vos enfants connaissent votre histoire, votre témoignage de conversion? Ils sont vos plus proches prochains. Et ne croyons pas que ça va les leur passer au-dessus de la tête. Ça peut les toucher. Parce qu'ils vous aiment. Et si vous leur dites, si vous leur racontez ce que Jésus a fait pour vous, eh bien, ils vont s'en rappeler. Et oui, là, on revient à Jaïrus. Là, nous sommes pendant ce temps, le temps où Jésus a guéri la femme et l'a sauvée. Eh bien, l'état de la fille de Jaïrus, le temps a passé, l'état de la fille de Jaïrus n'a fait qu'empirer. N'a fait qu'empirer. Au point que des gens viennent annoncer à Jaïrus que sa fille est morte. Et c'est le cas, sa fille est morte. Alors avec pas moins de délicatesse, il lui demande sans ménagement de cesser d'importuner le maître. On aurait aimé plus de délicatesse parce que quelqu'un qui lui annonce « ta fille est morte, cesse d'importuner le maître ». Où est l'amour dans tout ça? La compassion? Mais Jésus est là. Bon, Jésus a bien montré qu'il peut guérir des malades, mais tout maître qu'il est, il ne peut pas ressusciter des morts. C'est ce que pensaient les gens qui ne croyaient pas en lui. Et vous avez remarqué, il y en a qui l'appellent, qui ne croient pas en lui, qui l'appellent maître. Maître. Imaginez l'état désespéré de Jaïrus. Jaïrus, il avait été là le premier, avant la femme qui perdait son sang. Il avait été là le premier pour demander à Jésus de guérir sa fillette. Et il s'est fait doubler par une femme atteinte d'une maladie que Jésus a pris le temps de sauver, une maladie que Jésus a pris le temps de guérir et une femme qui l'a sauvée. Jaïrus, qu'est-ce que vous auriez pensé à la place de Jaïrus? Il aurait très bien pu penser, mais j'étais là avant. Cette femme, elle aurait pu attendre un peu, depuis 12 ans. Elle aurait pu attendre encore un petit peu. C'était moins urgent, ma fille était à l'extrémité. Tu aurais pu lui donner rendez-vous pour une consultation un peu plus tard. Pourquoi tu n'as pas privilégié ma fillette de 12 ans qui avait toute sa vie devant elle? Jaïrus n'a pas procédé ainsi, n'a pas dit cela à Jésus. Par contre, d'autres ont eu des paroles de découragement pour lui. Même des paroles de mort. Des gens autour de lui, de ceux qu'il appelait maître, mais qui au final ne croient pas en lui et ne le confessent pas, ne le connaissent pas. Mais Jésus, eh bien, ne tient pas compte des paroles qui ne sont pas inspirées par la foi. Mais à l'inverse, il va répondre à une prière de la foi. Jésus a compassion de Jaïrus et il veut le réconforter. Il est témoin de tout ce qui se passe. Verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et l'évangile de Luc rajoute, « Et elle sera sauvée. » Alors est-ce que Jaïrus aurait assez de foi pour continuer de croire que Jésus, cette fois, peut non pas seulement guérir un malade, mais ressusciter un mort? Est-ce que Jaïrus aurait encore assez de foi à ce stade-là? Eh bien, à la parole de Jésus, et seulement à cette parole, oui, Jésus va continuer de faire confiance à Jésus, et il continue, il va emmener Jésus chez lui. Sa foi n'est pas morte, même si sa fille est morte. Il va continuer de croire contre toute espérance. Et j'en arrive à mon troisième point, qui est que la foi, elle persévère. Elle persévère. Elle ne s'arrête pas. Voilà donc, on arrive à la maison de Jaïrus. Et là, à la maison de Jaïrus, on voit un état d'agitation extrême. Des pleurs suite au décès de la fillette. Imaginez Jaïrus, est-ce qu'il aura encore assez de foi lorsqu'il entend les pleureurs se moquer de Jésus, affirmant que la fillette n'est pas morte, mais qu'elle dort? Que va faire Jésus? Là, il ne va pas chercher le spectaculaire. Il va se rendre auprès de la fillette. Il va garder avec lui dans la maison trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui sont les plus proches, hein. Et il va garder avec lui monsieur et madame Jaïrus. Il va respecter l'intimité familiale. En fait, il garde avec lui tous ceux qui ont cru en lui. Et oui, Jaïrus, il a encore assez de foi pour rester et pour croire contre toute espérance à l'impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Jaïrus a des attentes sur Jésus. Et là, une personne dont on n'avait pas encore entendu parler entre en scène, c'est Madame Jaïrus, la maman. On n'avait pas encore entendu d'elle, parler d'elle jusqu'à présent, mais imaginez dans quel état elle devait se trouver, parce que pendant que Jaïrus était avec Jésus, elle a dû assister à la mort de sa fille. Dans quel état de détresse elle a dû être? Elle a dû voir sa fille mourir. Et c'est là que Jésus agit. Comment agit-il? Je relis les versets 41 et 42. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Tout se passe de façon immédiate. Pourtant, Jésus, il a pris son temps quand même. Il a pris son temps, il n'était pas pressé. Il a pris son temps parce qu'il est le maître du temps. Il est le créateur. Et parfois, quand on a l'impression que les choses durent, rappelons-nous que pour le Seigneur, il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus a pris le maître du temps, il a pris son temps avant de venir. Il a pris son temps au point qu'il a permis que la fillette meure. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, autant la guérison de la femme a été immédiate, autant la résurrection de la fillette est immédiate, aussitôt. Et parfois, on a l'impression que Jésus ne répond pas à nos prières. Parfois, on a l'impression même qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si nous avons l'impression que ça dure longtemps, eh bien, disons-nous que cette attente, elle a un but. Le Seigneur, il a un objectif quand il nous fait attendre. On aimerait bien que les choses aillent plus vite. Mais si nous attendons, c'est qu'il veut, il veut nous amener plus loin dans notre foi. Il veut faire grandir notre foi. Quel était le but du Seigneur ici? Eh bien, c'était pour faire un miracle encore plus grand que la guérison demandée par Jaïrus. Comment? En ressuscitant sa fille, et ce, sous les yeux des parents et aussi de ses apôtres. Un miracle encore plus grand. Voilà la raison de cette attente, pour faire un miracle encore plus grand que cette seule guérison. Et pourquoi Jésus a-t-il attendu? Eh bien, que visait-il? Il visait la conversion de toute la famille, en leur montrant que rien ne lui est impossible. Il visait cette famille-là, Jaïrus, son épouse et leur fille. Les autres, ils sont restés dehors, ceux qui ne croyaient pas en lui, la foule. Il n'a pas fait du spectaculaire, non, Jésus est resté avec cette famille. Il visait la conversion de toute la famille par cette résurrection miraculeuse. Et là, imaginons aussi, voilà, la fillette a été guérie, imaginons comment elle a dû se sentir en voyant Jésus devant elle. Cette fillette qui est revenue à la vie, elle voit Jésus devant elle, elle voit ses parents. Comment elle a dû se sentir? Elle a dû voir ses parents émerveillés de l'avoir en vie, avec une joie sans pareille. Elle a dû se demander, mais pourquoi une telle joie? Elle revenait de la mort. Et puis elle voit Jésus. Elle voit Jésus prendre soin d'elle. Et comme pour la femme qui saignait, eh bien Jésus ne s'est pas arrêté à sauver la fillette. Jésus va aller plus loin pour la fillette, de même qu'il n'a pas seulement guéri la femme, il l'a sauvée. Jésus, eh bien, il va sauver la fillette et il va aller plus loin. Comment? Il va demander, il va même ordonner qu'on donne à manger à la fillette pour lui redonner des forces. Ça montre que Jésus prend soin, veut qu'on prenne soin de nos corps aussi, qu'on se nourrisse aussi correctement, sans faire de la nourriture une idole, comme parfois c'est le cas dans certaines émissions. Mais Jésus s'intéresse à notre physique. Imaginons la fillette qui a entendu Jésus ordonner qu'on lui donne à manger. Jésus prend soin de moi, il prend soin de mon corps. Elle a dû lui être reconnaissante. Jésus s'est révélé à toute la famille, la fillette, Jaïrus et son épouse. Alors imaginons, plus rien n'a dû être comme avant dans cette famille après cet événement qui a dû changer leur regard les uns envers les autres. Ils ne devaient plus se voir comme avant parce que Jésus était rentré dans la famille. Et quand on se convertit, on voit sa propre famille autrement, certainement avec plus d'amour, parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, même si nos proches ne sont pas toujours faciles, ne sont pas convertis. dans les familles. Revenons à la prière, comment le texte, comment le récit a débuté, la prière insistante de Jaïrus, que Jaïrus a adressée à Jésus au début. Eh bien, au verset 23, nous constatons que Jésus a parfaitement exaucé sa prière, dans le détail. Regardons verset 23, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens !» Jésus est venu, à la demande de Jaïrus. « Impose-lui les mains !» Jésus a pris la main de la fillette. « Afin qu'elle soit sauvée !» Jésus l'a sauvée, il lui a redonné la vie. Et qu'elle vive. Et Jésus s'est occupé d'elle après sa résurrection en lui demandant de lui donner à manger afin qu'elle vive. Un nouveau départ était pour la fillette. Et l'ordre de Jésus de lui donner à manger était le signe de ce nouveau départ. Il faut que tu manges maintenant. Tu vas te lever, tu vas marcher. Jésus n'aurait pas demandé à ce qu'on donne à manger à un cadavre. Il aurait pu... Non, il fallait avant qu'elle revive, la fillette. Et c'est aussi vrai pour le corps que pour l'âme. La Bible dit très clairement que celui qui ne connaît pas Jésus, il est mort spirituellement dans son péché, à cause de son péché. Il est perdu sans Christ. Et là, on a un enseignement pour l'enseignement des enfants, qu'on soit parent ou moniteur ou pas. C'est très bien de raconter les histoires bibliques aux enfants. Et vraiment, on est reconnaissant pour l'équipe qui est déjà bien représentée ici. Et vous êtes conscient que les enfants n'ont pas seulement besoin d'entendre les récits bibliques que parfois ils connaissent par cœur, David contre Goliath, des récits qu'ils aiment, Jonas dans le ventre du poisson. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont besoin de connaître Jésus. Ils ont besoin, les enfants, tout enfant qu'ils sont, tout petit qu'ils sont, ils ont besoin de passer par la nouvelle naissance pour ensuite être nourris complètement avec la parole de Dieu. On ne donne pas à manger à un cadavre. Ils ont besoin d'être nourris complètement par la parole de Dieu. C'est très bien de vouloir, comme tout parent normalement constitué, la réussite scolaire de ses enfants. Pour qu'ils puissent avoir une belle situation, une belle maison, qu'ils puissent fonder une famille. Ça, c'est l'idéal, la famille idéale. Mais ça ne les sauve pas. Même si c'est important. Et la belle prière de Jaïrus à Jésus, du verset 23, eh bien, elle peut être celle de tout parent chrétien, pour leurs propres enfants. Cette prière que Dieu a pris plaisir à exaucer parfaitement pour Jaïrus. Vous avez remarqué, il a exaucé point par point cette prière de Jaïrus. Et je crois que le Seigneur veut entendre vos prières en tant que parents. Il les entend. Jésus répond à la prière de la foi et il répond à la prière de la foi des parents pour leurs enfants. Alors pour cette raison, priez-vous avec insistance pour le salut, la vie éternelle et la marche chrétienne de vos enfants. Est-ce que vous allez à Jésus pour lui demander de donner la vie éternelle à vos enfants avec autant d'empressement, d'insistance et de foi persévérante que Jaïrus en a eu pour aller voir Jésus pour sa fille? Parce qu'un enfant sauvé, c'est toute une vie sauvée, à la fois sur terre et au ciel, pour l'éternité. Parce que quand Dieu sauve, ce n'est pas à moitié, c'est complètement, c'est parfaitement. De quelle manière Dieu sauve-t-il? Avant la résurrection de sa fille, quand il a entendu que sa fille était morte, Jaïrus aurait pu penser que cette femme que Jésus a guérie, qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, elle a été guérie à la place de sa fille, qui, elle, était âgée de 12 ans. Jaïrus aurait pu penser que cette femme a pris la place de sa fillette. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui non seulement a pris la place de la femme atteinte de la perte de sang, mais il a aussi pris la place de la fillette et aussi notre place à tous, lorsqu'il a accepté de souffrir sur la croix en mourant sur la croix pour nous. Jésus a stoppé l'hémorragie chez cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Mais il n'a pas arrêté son sang qui a coulé sur la croix pour nous, son propre sang, pour nous sauver de nos péchés. Et celui qui a été capable de ressusciter une fillette, il est lui-même ressuscité 3 jours après. Il est le fondement de notre foi. Alors, d'où l'importance d'en parler dans les familles, en parlant à la maison. Et en parlant à la maison, et pas seulement à l'école du dimanche, l'enfant saura dès son plus jeune âge que Christ est mort et ressuscité pour lui aussi, tout jeune qu'il soit, et qu'il a une réponse à lui donner. Ce récit nous montre aussi que, de même que Jésus a instantanément sauvé et guéri la femme et la fillette, il sauve instantanément et parfaitement celui ou celle qui place sa confiance en lui, qui s'approche de lui, pour lui donner une vie nouvelle, un nouveau départ. Et de même que Christ a eu souci qu'on donne à manger à la jeune fille revenue à la vie, eh bien il a souci non seulement de la nourriture physique pour notre corps, mais il a souci aussi de notre âme, il a souci de notre nourriture spirituelle. D'où l'importance d'avoir des temps bibliques quotidiens à la maison, en famille, pour se fortifier ensemble. Jésus prend soin non seulement de nos corps, mais aussi de notre âme. Il veut qu'on se nourrisse, et pas seulement de notre nourriture physique, mais de sa parole. Alors pour terminer, je termine avec cette exhortation que Jésus adresse non seulement à Jaïrus, mais que je crois qu'il adresse à tous parents. Cette exhortation de croire au salut de leurs enfants. Ce que Jésus a dit en Luc, chapitre 8, verset 50, c'est le passage parallèle dans l'évangile de Luc. « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Je vais prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es toujours là, Seigneur, comme tu as été là, Seigneur, à la demande suppliante de Jaïrus, et tu as été là lorsque cette femme s'est approchée de toi, même par derrière. Merci, Seigneur, parce que tu sais, tu connais tous ceux qui s'approchent de toi, même maladroitement, même sans te connaître, et tu te fais connaître, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous nos proches, tous ceux qui ne sont pas encore à toi, que nous persévérions dans la prière, même si en apparence rien ne laisse entendre qu'ils ont compris l'évangile, qu'ils t'ont reçu, mais que nous persévérions dans la prière, Seigneur, pour eux. Parce que, Seigneur, je crois que si tu ne réponds pas tout de suite à nos prières, c'est que tu as en vue quelque chose de bien plus grand que ce que nous te demandons. Parce que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alors, nous te demandons, Seigneur, la foi suffisante, nécessaire pour persévérer dans la prière, aussi pour intercéder pour nos proches. Je te prie pour les parents, Seigneur, qui sont ici représentés, qui sont là et d'autres qui ne sont pas là. Que, Seigneur, ils persévèrent, Seigneur, pour leurs enfants, pour intercéder pour eux et pour que leurs enfants te connaissent dès leur plus jeune âge, Seigneur, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Merci d'assister les parents. Tu sais que la tâche n'est pas simple, que les enfants soient petits ou grands, mais tu es là, Seigneur, et tu entends les prières des parents, Seigneur, comme tu entends nos prières. Grâce à ton Fils Jésus, qui a fait le premier pas vers nous et qui a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur de garder les yeux fixés sur toi et qu'on soit fidèle, Seigneur. On soit fidèle dans l'intercession et Seigneur, que nous soyons à ton écoute. Et merci de faire grandir notre foi, chacun là où nous en sommes, Seigneur. Pour que d'autres te connaissent, au nom de Jésus. Amen. Amen.